Donc, mon thème annoncé était vérité et révélation dans les dialogues philosophiques. Je respecterai ce thème, mais il m'est apparu au fur et à mesure de mes recherches que je n'allais pas simplement me cantonner au dialogue philosophique, parce qu'il y a certains autres textes du corpus augustinien qui éclairent fortement cette idée et qui permet de comprendre aussi le sens que prend l'idée de révélation dans les dialogues. Alors, si l'on se fie à la définition strictement théologique de la révélation telle qu'elle apparaît, par exemple, dans une constitution conciliaire, celle du Concile Vatican II, dans la constitution qui s'appelle Dei Verbum, on trouve la définition suivante. La révélation est l'action par laquelle Dieu se révèle et manifeste le mystère de sa volonté. Cette action se produit grâce à des événements et des paroles strictement associés dans l'histoire du salut. Donc la révélation, dans une définition moderne, théologique moderne, a trait à des événements et des paroles dans l'histoire du salut. Donc, le trait caractéristique de la révélation semble associé à des événements qui ont cours dans l'histoire humaine, à des paroles, c'est-à-dire à une manifestation extérieure du mystère divin dans le langage humain. Force est de reconnaître que la révélation augustinienne ne correspond pas immédiatement à cette définition, et même n'y correspond pas principalement. L'idée de révélation renvoie avant tout chez Augustin à un événement intérieur. Elle est rattachée à l'idée d'illumination de l'intelligence par l'action divine. Illumination qui a lieu donc dans la mente. Je commencerai donc par un texte où Augustin définit ce qui doit être à ses yeux la révélation parfaite, qu'il situe donc dans la mente, dans l'intelligence humaine. Ce texte est le Contradiment. Augustin commence en effet par évoquer deux modes de vision qui constituent deux modes de révélation, mais extérieurs. L'une est la vision par les sens, et l'autre, la vision par l'imagination. Donc, par la vue, premier mode de vision, par la vue, par exemple, Abraham, lorsqu'il voit les voyageurs aux chênes de Mambré, ou alors la transfiguration du Christ devant certains apôtres. Révélation par l'imagination, Pierre voit dans une vision, descendre une nappe du ciel contenant divers animaux. Ces deux modes de vision, soit par la vue directe, soit par l'imagination, ne constituent pas le sens essentiel de la révélation. Ils sont l'occasion extérieure qui ne peut avoir de fonction de manifestation que s'ils conduisent à la révélation véritable qui s'accomplit dans l'intelligence. Autrement dit, ce n'est que lorsque l'intelligence saisit en elle-même la signification véritable qui est véhiculée par le signe extérieur que la révélation véritable s'accomplit. Par exemple, dans le cas de la transfiguration, ce n'est que lorsque les disciples saisissent que la transfiguration visible, manifeste du Christ, révèle son statut de fils de Dieu, que les disciples peuvent comprendre en eux-mêmes ce qui est en jeu dans l'événement extérieur. Ou, de la même façon, lorsque Moïse comprend que les hôtes qu'il accueille aux chênes de Mambré sont en fait une manifestation même du divin. Mais venons-en à la troisième espèce de vision, qui est la révélation parfaite, comme le dit Augustin. Donc c'est le texte numéro 1, je suis désolé pour ceux qui n'auront pas le texte. Éventuellement, pour mes étudiants, je vous le ferai passer par mail. La troisième espèce de vision est une vision de l'esprit par laquelle celui-ci voit et comprend la vérité et la sagesse. Vision de l'esprit par laquelle celui-ci voit et comprend la vérité et la sagesse. Sans une vision de ce genre, les deux premières espèces de vision, donc par la vue et par l'imagination, seraient vaines ou même induiraient en erreur. En effet, lorsque les choses que Dieu montre, soit aux yeux du corps, soit à la partie de l'âme qui appréhende les images corporelles, sont non seulement senties par ce moyen, mais encore comprises par l'esprit, alors la révélation est parfaite. Tunc est perfecta revelatio. de cette troisième espèce est la vision que j'ai citée d'après les paroles de l'apôtre. Les perfections invisibles de Dieu sont, depuis la constitution du monde, rendues visibles à l'intelligence par le moyen de ses yeux. Romains, chapitre 1, verset 20. Donc, de saint Paul. Donc, la révélation parfaite, ici définie, suppose la combinaison de l'extériorité de la vision corporelle ou imaginaire et la compréhension interne par l'intelligence du sens caché véhiculé par l'image externe. La structure de la révélation obéit ainsi à un schéma identique à celui qui est mis en lumière par Augustin, qu'on a déjà exploré pour ceux qui suivent le cours d'agrégation, en ce qui concerne l'enseignement dans le De Magistro. L'enseignement extérieur, celui qui est dispensé par les paroles du maître, n'a qu'une fonction d'avertissement par rapport à l'enseignement véritable qui, en fait, a lieu dans l'intelligence de l'élève, qui se met à l'écoute cette fois non pas du maître extérieur, mais du maître intérieur, qui est la norme de vérité qui habite son âme. Et dans le De Magistro, on peut étendre cette structure générale au langage tout entier. Les mots du langage ne sont que des signes qu'il faut dépasser pour que s'accomplisse la compréhension interne. L'avènement de la signification ne peut se faire que dans l'intériorité de l'âme, à la lumière de la messe. Dans chacun de ces cas, donc la révélation, l'enseignement, ou de façon générale la communication par le langage, il y a une sorte de partage qui s'opère entre un médium externe, la vision corporelle ou imaginaire dans le cas de la révélation, l'enseignement oral dans le cas de l'enseignement, ou la médiation du langage dans le cas de la communication. Et d'un autre côté, un événement intérieur de l'intelligence, de la compréhension, qui s'accomplit à l'occasion donc de l'extériorité des signes. Signa. Cette idée que la révélation véritable est une révélation intérieure, qui s'accomplit donc dans l'âme, se trouve encore très clairement exprimée dans un des passages des sermons sur l'évangile de Jean. Et je m'appuierai beaucoup sur ces sermons parce qu'ils sont peut-être le lieu central où l'idée de révélation se trouve explicitée avec le plus de clarté et de force. Donc c'est le texte numéro 2. Et même s'ils écoutent des paroles d'hommes, ce qu'ils comprennent leur est néanmoins donné au-dedans. Les illumine, donc l'idée de l'illumination, la fameuse théorie d'illumination, les illumine au-dedans, leur est révélé au-dedans. Intus revelatur. Que font les hommes qui annoncent la vérité au dehors? Qu'est-ce que je fais moi-même? Donc Augustin parle. Qu'est-ce que je fais moi-même à présent quand je parle? Je fais retentir à vos oreilles un bruit de parole. Si donc celui qui se tient au-dedans de vous ne vous en révèle le sens, nisi ergo reuelet ille qui intus est, à quoi bon parler? Pourquoi ouvrir la bouche? Avec cette belle image, l'arboriculteur reste au dehors, le créateur se tient au-dedans. Donc, sermon sur l'évangile de Jean, 26, 7, dans la bibliothèque augustinienne, c'est le tome 72. L'articulation ici est nettement marquée entre le bruit extérieur de la parole, qui n'est qu'un signe, et l'événement intérieur de la révélation, qui, encore une fois, implique cette compréhension active de l'âme. Par la médiation, donc, de celui qui, je cite, se tient au-dedans de l'âme, à savoir celui que le De Magistro appelle le maître intérieur. Je reviendrai un peu plus loin, plus en détail, à l'occasion d'un autre texte des sermons, sur cette structure et ce contraste entre l'extériorité de la parole et l'intériorité de l'événement de la compréhension. Je voudrais pour l'instant insister sur le fait que la fonction externe de la manifestation, ce qui se joue dans l'extériorité du signe, donc, est la plupart du temps désignée par Augustin, et c'était important, par le verbe latin « admonere », qui peut vouloir dire « avertir » ou « faire remarquer quelque chose ». Ainsi, par exemple, dans le De Magistro, Augustin oppose-t-il la fonction d'avertissement assumée par les signes extérieurs et l'enseignement réel qui ne s'accomplit que dans l'immanence de l'âme, dans la relation donc entre l'intelligence et le maître intérieur. Conceptuellement, cette articulation entre ces deux dimensions donc s'exprime entre l'extériorité de l'admonéré et l'intériorité du docéré. Docéré donc, qui veut dire de l'enseignement. Texte 3. Ce qu'il est dans les cieux, lui-même nous l'apprendra, docebit, lui qui nous fait donner par les hommes l'avertissement des signes extérieurs, signis admonitur et foris, afin que nous retournant intérieurement vers lui, nous recevions ces leçons. Afin que nous retournons vers lui, nous recevions ces leçons. Et Magistro 14, 46. Augustin, donc, pour exprimer l'événement de la compréhension, retrouve le schème néoplatonicien de la conversion. Hein, de la conversion, ou en grec, de l'épistrophée. On retrouve ici, et c'est tout à fait important, la double signification de ce mouvement de l'intelligence. Mouvement réflexif vers l'intériorité et mouvement vers la présence intérieure du divin. Chez les néoplatoniciens, l'épistrophée comporte cette double dimension, réflexive et transcendante. Réflexive vers le soi et mouvement vers le soi qui ouvre à la transcendance du principe supérieur. Donc là, c'est un des héritages les plus importants du néoplatonisme dans la méditation augustinienne sur la conversion. La réponse d'Adéodate à la conclusion d'Augustin, on est à la fin du De Magistro, est la suivante. Pour moi, averti par tes paroles, donc on retrouve l'admonition, hein, admonitione verborum tuorum. J'ai bien appris que l'on ne reçoit rien des paroles, sinon l'avertissement de s'instruire. Donc, soyez attentifs à ce terme. L'avertissement de s'instruire. Et que c'est bien peu de choses, cette petite part que le langage nous révèle apparaît. Donc, il y a une forme d'apparition de la pensée de l'autre à travers le véhicule du langage. Cette petite part que le langage nous révèle apparaît de la pensée de celui qui parle. Mais que si l'on dit la vérité, celui-là seul nous l'apprend, et hum docere solum, qui par des paroles extérieures nous avertit, cum foris loquitur adonuit, de sa demeure au-dedans de nous. En fait, il faut distinguer dans ce texte ce qui est de l'ordre de la manifestation de la pensée de celui qui parle, du maître extérieur, mais cette manifestation n'est pas encore la révélation. Cette manifestation n'est que le signe de la pensée de celui qui parle et l'avertissement de ce qui est en jeu dans le véhicule du signe, à savoir la vérité elle-même. Donc, entre la manifestation, l'apparition, si vous voulez, de la pensée de celui qui parle et la vérité elle-même, il faut bien faire la différence, puisque ce qui est en jeu dans l'enseignement, ce n'est pas ce que pense le maître extérieur, mais c'est la vérité dispensée par le maître intérieur, qui seul est révélation au sens véritable du terme. Donc, la manifestation externe de la parole exprimée par l'amonéré s'oppose à, encore une fois, l'intériorité de la veritas. À cette articulation entre l'extériorité de l'admonéré et l'intériorité du docéré, donc l'extériorité de l'avertissement et l'intériorité de l'enseignement ou de l'enseigné, on peut mettre en parallèle la structure de la révélation. Le couple conceptuel se partage cette fois entre l'admonéré et le révélaré. Voici ce qu'il dit, je crois que je ne l'ai pas mis dans les textes, mais je vous le cite juste, encore une fois, le sermon, un sermon sur l'évangile de Jean, c'est le sermon 26. Dans ce qui suit, nous trouvons un avertissement, admoneat quod sequitur, avertissement. L'avertissement, c'est la parole du Christ, la parole extérieure. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. C'est dans l'évangile de Jean. Augustin reprend la parole. Il a voulu par là nous révéler qui il était. Revelare se voluit quid esset. Avertissement d'abord de la parole extérieure. Admoneat quod sequitur. Et ensuite, il a voulu par là nous révéler. Revelare se voluit quid esset. Si l'on suit la structure de l'admonere et du revelare, dans cette articulation, l'avertissement de la parole en vérité, celui qui croit en moi à la vie éternelle, n'est que la dimension externe de la révélation qui s'accomplit dans la mens des disciples. Donc, ce que Christ exprime dans les mots, dans le langage, est le signe extérieur qui doit avertir les hommes pour que s'accomplisse en eux-mêmes la révélation de qui il est. Revelare, c'est Olwit. Et on constate dans la suite que le terme, le concept, on pourrait dire, de révélation est quasi exclusivement, chez Augustin, utilisé pour désigner cette manifestation intérieure de l'intelligence, ou dans l'intelligence. Alors, notons, et c'est aussi important, que si le Christ doit passer par la médiation de la parole extérieure, c'est du fait de la faiblesse de la nature humaine, à la suite de la corruption que cette nature a subie du fait du péché et du péché originel. Autrement dit, comme l'incarnation, pour Augustin, la révélation externe dans la parole prêchée par le Christ est un secours apporté à la faiblesse de la nature humaine afin, à partir de cet avertissement dans l'extériorité des signes, d'accomplir la révélation interne. Et donc, l'avertissement, la médiation de la parole et le remède, s'inscrit dans l'histoire du salut, et le remède apporté à la chute, d'une certaine façon. Mais, d'une certaine façon, avant la chute, ce détour par la médiation de l'avertissement, de l'admonéré, n'avait pas besoin, n'était pas nécessaire. Augustin, pour marquer l'écart entre la révélation d'avant la chute et la manifestation externe postérieure à la chute, emploie une métaphore très forte, très intéressante, qui est la double image de la source et de la pluie. Et, petite parenthèse, ces références m'ont été inspirées par un article d'Isabelle Baucher, qui a pris tout à l'heure la parole, qui s'appelle « L'écriture et le maître intérieur », un très bon article et que vous trouverez sur Internet assez facilement. Et je vous recommande sa lecture parce qu'il y a beaucoup de choses justement sur la question de la révélation dans l'écriture et sur la question de l'exégèse. Donc c'est dans la revue des sciences religieuses, et je crois que c'est paru en 98. Donc voici ce que dit cette fois le traité d'Egelisi contra Manichéos. Avant le péché, donc c'est texte numéro 5. Avant le péché, Dieu irriguait l'âme par une source intérieure s'adressant à son intelligence. Dieu irriguait l'âme par une source intérieure s'adressant à son intelligence, de telle sorte qu'elle n'avait pas à recueillir ses paroles à l'extérieur. Mais elle était comblée par sa source, c'est-à-dire par la vérité qui jaillissait de son être intime. La pluie de la vérité, ça c'est l'enseignement extérieur. Donc source, c'est la révélation interne. La pluie de la vérité, c'est l'enseignement extérieur. La pluie de la vérité qui tombe des nuages, c'est-à-dire l'enseignement divin dispensé en parole humaine, a remplacé la source intérieure. Alors, notons malgré tout, donc le péché a rendu nécessaire, une sorte de secours qui est la pluie, pour abreuver en quelque sorte le soif, mais la pluie n'est qu'un secours externe qui ne peut pas totalement remplacer la source véritable qui est la révélation en tant que telle, qui est la révélation intérieure du Christ. Notons malgré tout que cette révélation intérieure, celle de la source jaillissant de l'être intime, n'a pas été totalement tarie à la suite du péché, ce qui peut rendre encore un petit peu optimiste. La phénoménalité externe de la révélation, celle qui s'accomplit dans les paroles du Christ à travers l'incarnation, qui vient remédier à la chute. Il faut que vous soyez un petit peu au fait sur ces concepts un petit peu théologiques. Donc là, l'incarnation qui vient remédier à la chute, qui est le secours apporté dans le salut à la chute, cette incarnation s'exprime en quelque sorte par l'image de la pluie. Mais encore une fois, elle ne se substitue pas totalement à la révélation, à la source intime. Le fait de s'abreuver directement à la source peut être revivifié à la suite de la conversion de l'âme en elle-même. À ces deux modalités de la révélation, celle des paroles humaines dispensées à l'extérieur et celle du jaillissement interne de la vérité, correspondent, et là encore c'est assez remarquable, et pour vous je pense que c'est important, correspondent deux activités distinctes de l'âme. La révélation externe est l'objet d'un croire, d'un crédérer, alors que la révélation interne s'accomplit par l'intellection, l'intelligere ou l'intellection. Notons que, de façon générale, l'événementialité historique, celle de l'incarnation, celle de l'histoire du Christ, par humaine du Christ, ou alors celle des prophètes, l'événementialité historique est quasiment toujours apportée par Augustin à l'activité de la croyance, d'un crédéré. Et lorsque cette croyance se rapporte à la manifestation plus proprement historique de Dieu, à travers les paroles des prophètes ou celles du Christ, elle prend la figure de la foi, la fides. En revanche, la révélation perfecta, en tant que telle, la révélation parfaite, suppose l'activité de l'intellection. Parallèlement, donc, à cette opposition métaphorique assez frappante entre la pluie et la source, Augustin établit parfois, mais c'est plus classique dans les textes patristiques, une opposition entre la voix, manifestation extérieure dans le monde, et le verbe, révélation interne à l'âme. Texte numéro 6, tiré du sermon 288. Plus la sagesse se découvre à nous, moins la voix nous est nécessaire. Plus la sagesse se découvre à nous, moins la voix nous est nécessaire. Voix dans les prophètes, voix dans les apôtres, voix dans les psaumes, voix dans l'évangile. Même la voix qui s'exprime à travers la parole du pain, même l'enseignement du Christ est rapporté à la voix. Qu'il vienne, le verbe qui était au commencement. Voilà l'enthousiasme tout à coup d'Augustin. Qu'il vienne, le verbe qui était au commencement. Ce verbe était Dieu. Les voix s'effacent à mesure que le verbe croit. Les voix s'effacent à mesure que le verbe croit. Position dialectique entre la voix et le verbe. La voix cesse graduellement son office à mesure que l'âme progresse vers Dieu. On constate ici, d'abord, première remarque, l'équivalence entre la figure de la sagesse, plus la sagesse se découvre à nous, et le verbe, verbum. Le verbe, la sagesse, est une notion importante, sapientia, pour Augustin, parce que elle est à la fois la sagesse vétérotestamentaire, qui a une place très importante dans ce qu'on appelle les textes sapientiaux, et elle est aussi rapportée dans sa méditation à la sophia de la philosophie grecque. On constate ici l'équivalence, là encore classique, opérée entre la figure de la sagesse vétérotestamentaire, mais aussi philosophique, et le verbe, verbum, qui désigne dans l'évangile de Jean le Fils de Dieu. La révélation, donc, la sagesse qui se découvre à nous, prend ici une tournure dynamique. Donc elle est un processus. Elle s'accomplit par une sorte de conversion de l'âme, de la voix au verbe. Par l'effacement progressif de la voix au profit du Verbe. On peut distinguer donc deux modalités de la révélation. Celle qui s'accomplit dans l'Écriture, les prophètes, les psaumes et l'Évangile. Et celle qui s'accomplit dans le silence de l'âme par la contemplation du Werbung. Et ces deux modalités sont liées par un jeu dynamique. L'effacement progressif de la manifestation externe permet l'accentuation et la croissance de la révélation interne. On peut avancer ici en lisant ce passage qu'Augustin subit l'influence du schème néoplatonicien de la conversion de l'âme. Schème qui va de l'extériorité sensible et mondaine vers l'intériorité intime où l'âme se recueille dans le silence. La progression de l'âme vers Dieu, ici évoquée par Augustin, évoque fortement cette dynamique du mouvement de l'âme qui s'élève chez les néoplatoniciens par étapes vers l'origine divine de toute chose. On doit noter cependant que la manifestation externe, celle qui s'accomplit par l'annonce prophétique ou même évangélique, obéit à un mode de manifestation du divin qui suppose l'écoute du croyant. Et ce paradigme de l'écoute se trouve quasi absent, je parle sous l'autorité de Philippe Hoffmann, mais me semble quasi absent de la métaphysique néoplatonicienne. Chez Plotin et chez Porphyre, par exemple, la manifestation de Dieu dans le monde obéit au schème de la vision. Il s'agit de remonter de l'ordre externe visible dans le cosmos à l'ordre intelligible. Ou encore d'aller de la lumière externe dans le monde à la lumière intelligible qui rayonne à partir de l'an. Et sans doute, et là encore on pourrait peut-être en discuter avec Philippe, pour trouver trace au sein de la tradition grecque d'une révélation du divin par la médiation de la parole, peut-être faudrait-il se tourner vers un autre texte très important pour la tradition néoplatonicienne qui est les oracles chaldaïques. Mais il est clair ici en tout cas que c'est de la tradition juive, celle de la Bible, qu'Augustin s'inspire lorsqu'il met en avant la révélation de Dieu par la médiation de la parole, celle des prophètes ou du Christ lui-même. De fait, Augustin utilise lui-même ces deux champs métaphoriques pour exprimer cette idée de la révélation divine, le champ de la visibilité de la lumière et le champ de la profération de la parole. Et on verra que ce deuxième champ aura une importance théologique très importante et une importance même trinitaire très importante. En schématisant un peu, mais je vais tout de suite essayer d'inquiéter ce schéma. On peut dire que la métaphore de la lumière est platonicienne et remonte au livre 6 et au livre 7 de la République, à l'analogie du soleil, alors que le schème de la parole prend sa source dans la tradition biblique. Je dis qu'il faut inquiéter ce schéma parce qu'en fait, chez saint Jean, l'idée d'une révélation, d'une manifestation du Verbe par la lumière, on le verra, est aussi très importante. Et donc, comme je le dis souvent, Augustin fait s'entrecroiser le schème souvent de platonicien, de la lumière, et le schème johannique de la manifestation du Verbe dans la ténèbre du monde. Ces deux modes s'articulent selon une structure duelle, chacun selon une structure duelle. Dans le champ de la luminosité, la lumière externe qui vient du soleil s'articule à la lumière intelligible qui vient de Dieu. Dans le schéma de l'annonce prophétique ou évangélique, la parole extérieure s'articule avec le silence interne du Verbe divin. On trouve dans les soliloques, c'est un texte que j'ai déjà évoqué dans mon cours, mais on trouve dans les soliloques une illustration particulièrement claire de l'exploitation que fait Augustin de l'analogie platonicienne du soleil. C'est le texte 7. La raison qui parle avec toi te promet qu'elle fera apparaître Dieu à ton esprit, à une faute, comme le soleil apparaît à tes yeux. C'est que les esprits sont pour les âmes comme leur propre sens. Or, dans ces disciplines, les disciplines scientifiques, toutes les plus grandes certitudes sont comparables aux choses que le soleil illumine pour qu'on les voie, comme la terre et tout ce qui est terrestre. Mais c'est Dieu même qui illumine. Quant à moi, la raison Je suis dans les esprits comme le regard est dans les yeux. Excusez-moi de la redite pour mes étudiants, mais enfin je reprends l'analogie. Augustin met en place l'analogie de la façon suivante. Au soleil sensible correspond Dieu sur le plan intelligible, et la lumière est la manifestation du soleil, lumière qui est généralement rapportée par Augustin au Verbe divin qui manifeste la gloire du Père. Les choses éclairées par le soleil dans le monde signifient, et notamment la terre, les sciences, qui tirent leur intelligibilité de l'illumination divine. Ce que veut dire ici Augustin, c'est que les sciences ne sont pas à elles-mêmes leur propre source de lumière. Enfin, la raison est l'analogue sur le plan de la pensée et de l'intellection à ce qu'est le regard sur le plan des sens. L'illumination de la pensée par la lumière divine correspond au mode intellectif de la révélation, celle qui a lieu dans l'intériorité pure de l'intelligence. Ce qui est remarquable, cependant, est qu'Augustin, dans les soliloques, ne s'en tient pas exclusivement à ce schème de la visibilité et de la lumière. La raison n'est pas en effet seulement l'œil de l'esprit, elle est aussi ce qui s'adresse à l'âme, ce qui s'entretient avec elle. Et, encore j'en ai déjà parlé, à cet égard, le début des soliloques est frappant, puisqu'il met en scène comme une sorte d'événement d'irruption de la parole, de la ratio. C'est alors que, soudain, quelqu'un me parla. Était-ce moi? Était-ce un autre? Était-ce à l'intérieur ou à l'extérieur? C'est presque une expérience à la limite de la folie. Hein. Était-ce moi? Était-ce un autre? Était-ce à l'extérieur ou à l'intérieur? Je n'en sais rien. Et c'est bien là ce que je m'efforce de découvrir. Le regard de la raison se combine à sa parole. Celle-ci, la parole, a la soudaineté d'un événement, d'une irruption au cœur de l'âme, irruption qui provoque parfois sa perplexité et qui est le point de départ de la recherche. Ici, la raison doit être rapportée au Verbe divin lui-même, celui qui est présenté dans le De Magistro comme le maître intérieur. Cette articulation de la parole extérieure et du Verbe divin intérieur à l'âme doit cependant, et c'est là un nouveau pas dans mon exposé, être déployé dans ses ultimes dimensions. Cette ultime dimension, c'est la question de la manifestation intra-trinitaire, interne à la Trinité. C'est en effet au cœur même de la Trinité que s'enracine, aux yeux d'Augustin, l'idée d'une révélation du divin par la parole. Augustin exprime éminemment cette idée dans son commentaire à l'Évangile de Jean. Les choses se présentent de la façon suivante. Le Werbum divin doit lui-même être rapporté à une origine première, celle d'un locuteur qui profère ce verbe et qui s'exprime à travers lui. Le locuteur, la source de la parole, est le Père, et la parole elle-même, le Verbe, est le Fils. Si je vous ai mis le texte, donc je vous le lis. Mais que signifie? J'ai dû l'oublier, je suis désolé. Mais que signifie? Ah, c'est le texte 8. Ah ben voilà, parce qu'il n'y a pas de. Excusez-moi, j'avais pas fait de. Voilà, texte 8. Mais que signifie? Comme le Père m'a dit, je dis, Jean 12, 50. Sinon, je dis la vérité. Ainsi, l'un a dit en tant qu'il est le véridique. L'autre parle en tant qu'il est la vérité. Ça, c'est vraiment fondamental. L'un a dit en tant qu'il est le véridique, werax ut werax. L'autre parle en tant qu'il est la vérité, ita ista loquitur ut veritas. Le véridique a engendré la vérité. Le véridique, c'est-à-dire celui qui dit la vérité, werax. Que pourrait-il donc dire encore à la vérité? Car la vérité n'était point imparfaite pour que lui soit ajouté quelque chose de vrai. Par conséquent, il a dit la vérité parce qu'il a engendré la vérité. Or, la vérité même parle comme on lui a dit, comme elle est née, mais à ceux qui comprennent, à ceux qu'elle enseigne, docet. Ceux qui comprennent, c'est sed intelligibus. L'idée de révélation ne doit donc pas être limitée exclusivement à la manifestation externe de Dieu aux hommes. Selon Augustin, si l'on doit prendre au sérieux la fonction du werbum, du verbe divin, il faut rapporter l'idée de révélation. Il faut faire remonter l'idée de révélation au cœur même de la Trinité. Le Fils est celui qui révèle le Père dans l'immanence de l'essence divine. Pour comprendre la manière dont les choses se mettent en place, il faut marquer la distinction, donc, entre celui qui profère la vérité, qui est véridique au sens étymologique, werax, et la vérité elle-même comme engendrée par le locuteur, veritas. Dans cette articulation, donc, le Père véridique et le véridique, le Fils et la vérité. Ce lien entre la véracité du Père et la vérité qui est le Fils constitue en quelque sorte une archi-révélation, ou si vous préférez, l'archétype de toute révélation. Notons que la vérité est ici une instance de manifestation et qu'elle n'est pas par elle-même un absolu. La vérité manifeste la transcendance de son origine, celle du Père qui l'engendre. On retrouve souligné ce caractère dérivé et engendré de la vérité dans un passage du De Beata Vita qui met en lumière le lien entre la mesure sans mesure qu'est le Père et la vérité qui en dérive. Je ne commencerai pas longuement, mais je cite juste. Or, pour que la vérité soit, il faut quelque mesure suprême d'où elle procède et vers laquelle, quand elle est parfaite, elle se retourne. Dans le De Beata Vita, Augustin commence par méditer sur l'idée de mesure, l'idée morale de mesure, et il en fait ensuite une interprétation métaphysique et théologique. La mesure sans mesure va être envoyée au Père, et la manifestation de la mesure, dans la vérité, envoyée au Fils. En passant, pour la route, j'indique le caractère totalement néoplatonicien du mouvement de procession et de retournement, de conversion. La manifestation, ici, la révélation, s'opère par ce double mouvement processif et conversif de la vérité. Mais j'en reviens au texte central du commentaire à l'évangile de Jean. Une fois rappelée cette archi-révélation intra-trinitaire, Augustin la rapporte immédiatement à la révélation externe, à la manifestation de Dieu aux hommes. Texte 10. Mais pour que les hommes croient à ce qu'ils ne peuvent pas encore comprendre, intelligere non dum, le non-doom est important, pas encore. La bouche de la chair a fait entendre des sons qui ont disparu. Sur leur parcours, ces sons, soni, ont fait du bruit durant le court moment qui leur a été octroyé, mais les réalités elles-mêmes, dont les sons sont les signes, quorum signa sunt soni, passées d'une certaine manière à la mémoire de ceux qui les ont entendus, sont parvenues même jusqu'à nous, grâce aux lettres qui sont des signes visibles. Ce n'est pas ainsi que la vérité parle. Elle parle au-dedans aux esprits qui comprennent, ils tous le quittent, elle parle au-dedans, elle enseigne sans bruit, elle pénètre d'une lumière intelligible, intelligibili luce perfundunt. Je ferai trois remarques sur ce texte qui me semble important. Tout d'abord, l'opposition que je relevais tout à l'heure entre la croyance et la compréhension, entre le credere et l'intelligere. La croyance est une sorte de prolepse de l'intellection. Ce qui est cru doit être compris ou pensé ultérieurement, dans une illumination qui vient ensuite. D'où l'importance de ce non-dôme. Ce qui n'est pas encore compris doit être provisoirement saisi dans le credere, dans le croire. Une nouvelle fois, l'objet du credere est la manifestation extérieure, l'annonce prophétique ou évangélique, qui passe par des paroles, mais ces paroles s'évanouissent, alors que l'objet de l'intelligere est la parole interne, intus loquitur. Deuxième remarque, on retrouve ici la thématique du signe, signum, qui est la thématique majeure, comme vous le savez, du De Magistro. La révélation extérieure doit être interprétée comme le signum d'une réalité autre, purement intelligible, qui est la vérité elle-même. Soulignons la dissociation qu'opère ici Augustin entre le signe sonore, les soni, et les signes visibles qui passent par la médiation des lettres, per litteras. Le schéma est le suivant. Les lettres de l'écriture sont eux-mêmes les signes des sons, signes audibles. Les signes visibles sont les signes des sons qui sont eux-mêmes des signes audibles. Autrement dit, l'écriture, celle, par exemple, des évangiles, est la trace, la mémoire écrite des paroles sonores proférées par le Christ de l'histoire. La médiation entre le signe externe, évanescent et provisoire, et le signe écrit de l'écriture est mentionné dans le texte. Il s'agit de la mémoire des auditeurs du Christ, les témoins de la prédication. Mais le circuit de la signification ne s'arrête pas à ce premier moment du signe, moment donc entre le signe écrit et le signe sonore. C'est le second moment du signe qui est en fait le plus fondamental, celui par lequel les paroles elles-mêmes sont signes, signat de la vérité interne, de la parole interne, qui est le Christ lui-même. Ainsi, d'une certaine façon, les lecteurs actuels de l'Écriture ne sont pas plus éloignés du Verbe, de la révélation véritable, que les témoins historiques de la prédication du Christ. Le lecteur actuel, comme l'auditeur historique, sont tous deux, en quelque sorte, contemporains du sens réel de la révélation, sens réel qui s'accomplit par le Verbe qui parle à l'intérieur. Intus loquitur. À chaque fois, nous ne sommes pas, encore une fois, plus éloignés de la révélation véritable que nous le sont les auditeurs du Christ, parce que la révélation véritable se passe par l'intelligence interne. Troisième et dernière remarque sur mon texte, sur ce texte-là. On trouve ici l'entrelac entre les deux champs lexicaux qui expriment la révélation, celui de la lumière et celui de la parole. Ultimement, à la fin du paragraphe, c'est le champ de la lumière, le champ AMP, enfin pour le champ AMT ce serait beau, mais enfin celle-là c'est le champ AMP, le champ de la lumière, d'une lumière intelligible, qui semble avoir le dessus. Ou, pour faire un mauvais jeu de mots, c'est le champ de la lumière qui semble avoir le dernier mot. La révélation de la vérité ne se sert pas de mots, mais répand une lumière que les âmes intellectives peuvent saisir. Il semblerait donc que le modèle de la révélation par profération de la parole soit en quelque sorte dépassé par le modèle supérieur de l'illumination de l'intelligence par la vérité. Ce serait cependant oublier le début du paragraphe qui enracine toute révélation, dont la révélation interne à la Trinité, ce que j'appelais l'archi-révélation, et à ce niveau, c'est bien de nouveau, ou originairement, l'articulation entre un sujet locuteur véridique, le Père, et une vérité proférée, le Fils, qui domine. Donc il faut penser plutôt qu'une opposition, une sorte de fusion entre les deux images. L'image de la lumière intérieure doit être rabattue sur celle du Verbe silencieux qui s'exprime dans l'âme sans parole sonore, sans parole même articulée. Notons que l'image de la lumière n'est pas elle-même seulement d'origine grecque, ce que je disais tout à l'heure, mais qu'elle renvoie aussi à l'évangile de Jean qui dit du Verbe, il est la lumière qui est venue dans le monde, Jean 12, 46. C'est déjà dans le texte joannique qu'Augustin trouve l'entrecroisement entre ces deux champs lexicaux appliqués au Fils, le champ lexical du Verbe et de la profération, et le champ lexical de la lumière qui se révèle dans les ténèbres. Il me reste à évoquer un dernier aspect de la révélation qui est évoqué dans les sermons, là encore, sur l'évangile de Jean. Il s'agit de la relation entre révélation et amour ou désir, attraction. Jusqu'à présent, dans une dimension plus proprement intellective, la dimension essentielle de la révélation était l'acte de compréhension de l'intellection. Je rappelle tout à l'heure qu'on disait que la révélation n'est parfaite, n'est accomplie que dans la saisie que fait l'intelligence de la vérité interne. Mais ce n'est pas là l'unique dimension. La dimension intellective n'est pas l'unique dimension de la révélation, mais l'événement de la révélation suppose aussi que celui qui accueille la vérité soit par rapport à elle dans un état de désir ou d'amour. C'est ce que dit le serment 26 à travers une formule a priori énigmatique. Ista revelatio, ipsa est attractio. C'est cette révélation qui est attraction. Qu'est-ce que veut dire que la révélation est attraction? Texte 11. Celui que le Père a tiré, ou a attiré, ça dépend des traductions, proclame. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est Pierre qui parle, dans Matthieu 16, 6. Ce n'est pas comme un prophète, ni comme Jean, ni comme quelque grand juste, mais comme l'unique. Il explicite les paroles de Pierre, d'Augustin. Mais comme l'unique, comme l'égal, que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Constate maintenant qu'il a été tiré, et qu'il a été tiré par le Père, attiré par le Père, que la révélation que fait ici Pierre, la reconnaissance du statut du Christ, n'est possible que par une attraction. Tu es heureux, Simon, fils de Jean, c'est de Jonas, hein, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont été révélés, qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 16, 17. C'est cette révélation qui est attraction, ista revelatio, ipsa est attraction. Tu montres un rameau vert à une brebis, tu l'attires. On présente des noix à un enfant, il est attiré où il court, il est attiré par son amour, il est attiré par son amour. Il est attiré sans aucune atteinte faite à son cœur, il est attiré par les liens du cœur. Lien entre l'attraction et l'amour, ou l'attirance par les liens du cœur. Le contexte du passage est la polémique contre les Ariens. Si les Ariens sont incapables de saisir l'essence du Christ et son statut divin, et s'ils donnent un statut hiérarchiquement inférieur au Christ, c'est précisément qu'ils n'ont pas été attirés par la révélation divine. Ce qui veut dire, en d'autres termes, qu'ils sont incapables d'aimer la vérité. En revanche, c'est parce qu'ils aiment le Christ que Simon-Pierre est capable de saisir la vérité qui se manifeste à travers lui, à savoir que le Christ est intégralement fils de Dieu. La formule « ista revelatio ipsa est attractio » révélation attractio, veut donc dire ceci. Seul celui qui aime la vérité qui se révèle à lui, qui subit donc son attraction, peut en déployer intégralement la manifestation. Autrement dit, il y a une sorte d'axiome phénoménologique ici. La révélation, la manifestation, est à la mesure de l'amour de celui qui la reçoit. La révélation n'est pas seulement un événement intellectif, comme on le disait au début du parcours, qui engage l'intellection, mais elle suppose aussi, et peut-être plus fondamentalement encore, une conversion radicale de la volonté. Ce lien entre amour et révélation ou attraction, cette idée que l'amour de la vérité est la condition première de la manifestation, que l'amour de la vérité est condition première de la phénoménalité de la révélation, apparaît encore dans le dernier texte que je voudrais évoquer devant vous aujourd'hui et qui est tiré des Confessions. Augustin est confronté au scandale auquel s'affronte aussi l'évangile de Jean, qui est le scandale que la vérité n'est pas aimée. Voici ce qu'il dit dans le livre 10 des Confessions. Pourquoi donc la vérité enfante-t-elle la haine, et l'homme qui est le tien devient-il un ennemi pour eux en prêchant la vérité, puisqu'on aime la vie heureuse qui n'est autre que la joie de la vérité? Pourquoi? Sinon parce qu'on aime la vérité de telle façon que ceux qui aiment autre chose veulent que ce qu'ils aiment soit la vérité. Aussi parce qu'ils n'admettraient pas de se tromper, ils n'admettraient pas d'être convaincus qu'ils se sont trompés. Ils aiment la vérité quand elle brille, ils haïssent quand elle accuse, indicat. Car ne voulant pas être trompés et voulant tromper, ils aiment quand elle se signale, elle, et ils haïssent quand elle les signale, eux. Et odierunt eam, la vérité, cum epso, lorsque eos ipsos indicat, elle les indique, eux, elle les signale, eux. Augustin, et ce sera ma conclusion, explore ici un paradoxe qui est au cœur du prologue de l'évangile de Jean. Comment comprendre que la vérité ne soit pas aimée? Pire, comment comprendre que la vérité puisse être objet de haine? Pour répondre à cette question, Augustin met en lumière une sorte d'effet en retour de la révélation sur celui qui la reçoit. La révélation manifeste certes la vérité, ou la vérité se manifeste elle-même à travers la révélation, Mais en retour, par contre-coup, elle manifeste aussi la qualité de l'âme de celui auquel la révélation est adressée. Autrement dit, la révélation n'est pas seulement et exclusivement manifestation du Verbe divin, elle est aussi manifestation de la qualité d'amour de celui qui la reçoit. L'âme qui rencontre la vérité passe, pour ainsi dire, au révélateur. Ce que la vérité révèle, c'est aussi, outre elle-même, la capacité d'aimer ou de haïr de l'âme qui s'y trouve confrontée. C'est très précisément ce que dit le texte, « Et oderunt eam cum eos ipsos indicat » et il la haïs lorsque elle les signale, indicat. Certaines âmes, devant l'éclat de la vérité, ne peuvent que la haïr car elles révèlent, manifestent leurs propres carences, leurs propres insuffisances ou, comme dit leur texte, leurs propres erreurs, ce qu'elles ne peuvent supporter. Si, comme je le disais plus haut, l'amour est condition de la phénoménalité du vrai, la haine de la vérité est à rebours, ce qui en interdit radicalement la manifestation. Mais dans un cas comme dans l'autre, dans l'amour ou dans la haine, l'âme de celui qui est confronté au vrai est passée au révélateur, c'est la capacité à aimer ou à haïr le vrai qui se trouve ainsi aussi mise en pleine lumière. Je vous remercie de m'avoir écouté.